chronique de Philippe Jürgensen.
Notre chronique d'aujourd'hui va porter sur le thème du chômage. La France peut-elle le vaincre durablement ? Les derniers chiffres qui ont été publiés sur la situation de l'emploi montrent que celle-ci s'améliore. Avec 30 000 chômeurs de moins en septembre 2006, nous sommes revenus à un taux de chômage de 8,8% de la population active, qui est le plus bas depuis 5 ans. Cette performance est d'autant plus encourageante que toutes les composantes qualitatives du chômage reculent. Chômage des jeunes, qui reste cependant à 21%, beaucoup plus élevé que la moyenne. Chômage des femmes. Chômage de longue durée, qui atteint encore près de 40% des personnes en recherche d'emploi, mais recule lui aussi légèrement. Cette amélioration paraît durable puisqu'elle est à peu près continue depuis 18 mois, grâce notamment à une meilleure croissance de notre pays. Elle s'accompagne malheureusement d'une certaine augmentation de la précarité, puisque près de 80% des embauches faites l'an dernier l'ont été en contrat à durée déterminée. Il est vrai que ces CDD se consolident ensuite, car 9 dixièmes des contrats de travail en cours actuellement sont des CDI. Notons au passage que les emplois jeunes, suspendus en 2002, ont montré leur capacité à déboucher, dans la grande majorité des cas, sur de vraies embauches. Faisons-nous mieux ou plus mal que les autres ? En fait, nos 8,8% nous situent dans la moyenne européenne. L'Allemagne a un taux de chômage plus élevé. Les pays scandinaves, grâce à leur effort de recherche et d'innovation, connaissent des taux nettement plus faibles. Il en est de même au Royaume-Uni, mais le filet de sécurité sociale y est plus bas. La performance la plus spectaculaire est en vérité celle de l'Espagne, qui connaissait encore plus de 20% de chômage avant d'entrer dans la zone euro. Elle a aujourd'hui un taux inférieur au nôtre. On ne peut pourtant pas dire que la France a vaincu le chômage, puisque plus de 2 100 000 personnes, sont encore à la recherche d'un emploi, sans compter celles qui sont à temps partiel mais souhaiteraient travailler plus. Ces quelques 400 000 chômeurs partiels ont été éliminés des statistiques depuis une réforme il y a 10 ans. Donc sans les compter, 2 100 000, c'est encore beaucoup trop, car même si ces 2 millions valent mieux que les 3 millions qui ont été dépassés dans les années 90, il faut se souvenir qu'au cours de la fameuse période des 30 glorieuses, c'est-à-dire en gros la période 1945-1975, nous comptions moins d'un million de chômeurs, et même nettement moins d'un million. Peut-on aujourd'hui espérer vaincre durablement le chômage et revenir à ce niveau proche du plein emploi ? Cela pose tout le problème des inadaptations structurelles. En effet, on doit malheureusement constater que les emplois offerts sur le marché du travail ne correspondent souvent pas aux activités que recherchent les chômeurs ou à celles pour lesquelles ils ont été formés. Si bien que dès que la croissance reprend, on se trouve assez rapidement placé devant un paradoxe, très marqué autour des années 99 à 2001 et qui réapparaît aujourd'hui. Nombre d'entreprises ne parviennent pas à recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin, alors même qu'il existe de nombreuses personnes en recherche d'emploi. Les études très précises qui ont été faites sur ce phénomène par les organismes publics comme l'UNEDIC ou le ministère du Travail montrent que nous manquons d'une main-d'œuvre adaptée aux deux bouts de la chaîne. D'une part, des ingénieurs très qualifiés, en informatique par exemple, mais aussi, de l'autre côté, des candidats pour des métiers relativement astreignants et souvent manuels, tels que jardiniers, aides-soignantes, chauffeurs routiers, etc. Il y a bien sûr aussi des inadaptations géographiques. Lorsqu'une entreprise ferme, créant un problème de fort chômage local, il n'est pas toujours facile que la main-d'œuvre occupe des emplois qui peuvent être offerts à des centaines de kilomètres de là. Cette absence de flexibilité de la main-d'œuvre a conduit les économistes à forger l'idée d'un niveau de chômage structurel minimum qui, à la différence du chômage conjoncturel, ne pourrait pas être résorbé par une amélioration de la croissance. Cette approche a été rationalisée dans la théorie dite du Nehru. Rien à voir avec le célèbre homme d'État indien, car Nehru veut dire en fait « non-accelerating inflation rate of unemployment ». Pardon pour cet affreux jargon, ça se traduit simplement par le niveau minimum de chômage compatible avec une croissance non-inflationniste. Au-dessous de ce niveau incompressible, l'impossibilité structurelle de répondre aux offres d'emploi entraînerait une inflation par les coûts salariaux. Ce concept est en fait très discutable et on peut facilement constater que les niveaux successivement avancés par les économètres comme étant le Nehru applicable pour la France ou pour les États-Unis varient constamment. Malgré les savants calculs, ils paraissent bien n'être en réalité que la projection des situations conjoncturelles changeantes. Si l'on ne peut donc pas en faire une application trop mécanique, le concept du niveau minimum structurel de chômage a cependant un fond de vérité. En réalité, le niveau de chômage dans un pays exprime dans une assez large mesure son degré de résistance aux adaptations nécessaires. Alors, comment réagir ? Même s'il désespère parfois de trouver la bonne solution, On se rappelle le propos de François Mitterrand pour le chômage, on a tout essayé. Les décideurs politiques ont mis en œuvre des stratégies pour vaincre ce fléau. Ce que l'on peut retirer de l'expérience des quelques 20 dernières années est un succès limité dans l'immédiat et un échec à long terme des stratégies dites d'enrichissement de la croissance en emploi. Ces stratégies visaient à obtenir, pour un taux de croissance donné, la création d'une plus grande quantité d'emplois, tant par des aides visant à abaisser le coût du travail que par la réduction du temps de travail. Elles ont obtenu un certain succès, puisqu'il suffit aujourd'hui de 1,2% de croissance pour que notre économie commence à créer des emplois, alors qu'il en fallait 2,6% dans les années 70. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour moins de 2,5% de croissance, on ne créait pas d'emplois. Il fallait donc une croissance déjà assez forte pour y parvenir. Aujourd'hui, on y parvient avec une croissance moins forte. Mais ces effets bénéfiques dans l'immédiat sont très coûteux à long terme, car la contrepartie de l'enrichissement de la croissance en emploi est tout simplement une faible productivité. Le ralentissement des gains de productivité dans les économies continentales européennes, alors même que ces gains s'accroissaient aux États-Unis, est une caractéristique marquante de la période récente. Nos économistes redécouvrent aujourd'hui une vérité simple, à savoir que la croissance d'un pays est le produit de la quantité de main-d'œuvre disponible par la productivité de cette main-d'œuvre. Le rapport présenté en 2004 par le groupe Cantsu, tant et injustement décrié comme ultralibéral, mettait en lumière cette vérité d'évidence en montrant quelle est la cause de l'appauvrissement relatif de l'Europe par rapport aux États-Unis. Le pouvoir d'achat d'un Français moyen était les 9 dixièmes de celui d'un Américain il y a 20 ans. Il n'est plus que les 3 quarts de celui-ci aujourd'hui. Devant un tel constat, quel remède peut-on au bout du compte avancer? Ils sont facilement identifiables, même s'ils ne feront pas plaisir à tout le monde et peuvent donc être difficiles à mettre en œuvre. D'abord, les Français doivent travailler davantage et plus longtemps. Croire que notre démographie relativement faible, certes moins que d'autres en Europe, mais notre population active commencera tout de même à décliner après 2010, croire donc que cette démographie faible aidera à résoudre le problème du chômage est une grave erreur. Au contraire, cette situation oblige, si nous voulons pouvoir faire face aux charges du pays, notamment en matière de santé et de retraite, à ce que la vie active soit plus longue et le nombre total d'heures travaillées par an plus important. Un tel effort ne suffira pas, cependant, si la main-d'œuvre n'est pas formée plus efficacement aux emplois qui lui sont offerts aujourd'hui et qui lui seront offerts demain. Notre système d'enseignement est trop peu tourné vers l'entreprise, trop éloigné des réalités du marché de l'emploi. Il est par ailleurs évident qu'à notre époque, une formation initiale reçue il y a des décennies ne peut pas suffire et que les réorientations indispensables en cours de carrière nécessitent un effort important sur l'adaptation professionnelle et la formation continue. Enfin, cette analyse souligne, s'il en était encore besoin, à quel point il est important pour notre pays d'innover pour améliorer sa compétitivité, sa productivité et donc sa croissance et avec elle finalement l'emploi. On le voit, l'heure n'est pas aux lamentations, elle est à l'effort et à la créativité.